Du 27 au 30 août, l'école de musique intercommunale et la communauté de communes Vallée de l'Hérault organisaient la première édition du festival Air de Famille. Un festival dédié aux bienfaits de la musique, au développement du langage verbal et surtout au plaisir de l'écoute et de la pratique musicale. D'ailleurs, si vous avez pour habitude d'en jouer ou d'en écouter régulièrement, peut-être vous êtes-vous déjà demandé quels effets la musique pouvait avoir sur votre cerveau. Et ça tombe bien, parce que c'est également le sujet de recherche du scientifique Emmanuel Bigan. Les super-pouvoirs de la musique ou l'odyssée musicale du cerveau. C'est le nom de son concert-conférence qui a eu lieu le mardi 27 août au Somnambule de Gignac. Vous pourrez également écouter Alain Schneider, auteur, compositeur, interprète, chez qui la musique tient également une place primordiale. Alors, montez le son! Bonjour Emmanuel Bigan, donc vous êtes enseignant-chercheur en neurosciences cognitives à l'Université de Bourgogne et aussi musicien professionnel. Et vous faites des recherches donc sur ce que la musique a à nous apprendre sur notre fonctionnement cérébral et aussi le contraire. En quoi comprendre comment le cerveau traite la musique peut nous apprendre, enfin ce que ça peut nous apprendre sur la musique. Et vous êtes ce soir donc ici dans le cadre du festival Air de Famille à Gignac, au Somnambule, pour une conférence musicale qui s'appelle « Les super-pouvoirs de la musique ou l'odyssée musicale du cerveau ». Et vous n'êtes pas tout seul sur scène, puisqu'il y a aussi Amélia Donnier, qui est à la voix, et un groupe musical, un quartet qui vous accompagne, les Rolling Strings.
Ah oui, c'est tout à fait ça. On fait un spectacle basé sur un quatuor à cordes, le Rolling String Quartet, qui joue un répertoire très ouvert, pas simplement classique, mais on emprunte aux musiques traditionnelles, à la musique pop, etc. Juste pour montrer que toutes les musiques ont un effet positif sur le cerveau, donc c'est pas limité à la musique dite savante. Ça, c'est étal pour toutes les musiques populaires. Et on est accompagné par une chanteuse d'électropop, qui s'appelle Amélia Donnier, qui vient de Paris, qui est à la fois la récitante scientifique et la chanteuse, un petit peu celle qui guide. Le spectacle se présente un peu sous la forme d'un cabaret, donc celle qui guide le cabaret scientifique et rock, et un peu poétique aussi.
Alors, je vous propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, puisque ça fait de nombreuses années que vous travaillez sur ces thématiques et sur ces recherches. Donc, pour essayer de faire simple et de synthétiser, quelles parties de notre cerveau sont stimulées quand on écoute ou quand on fait de la musique ?
Alors, peut-être la plus grande découverte qui a été faite dans les 30 dernières années en neurosciences, c'est-à-dire lorsqu'on a pu voir le cerveau réagir à la musique, c'est qu'on a constaté que la musique a des effets sur des zones qui sont très différentes du cortex auditif. Bien sûr, le cortex auditif, c'est cette part du cerveau qui traite les sons, est active, mais la musique va activer beaucoup d'autres zones qui sont similaires à celles qui sont impliquées dans des tas d'activités cognitives, comme les maths, par exemple, dans les zones temporales, les zones frontales, le raisonnement, et également les zones émotionnelles et les zones de la motricité. Donc la musique va déclencher une sorte de symphonie neuronale, parce qu'elle active des neurones dans des parties extrêmement variées du cerveau. Et ça, c'est intéressant, parce que la musique, de par sa nature temporelle, très forte, rythmique, si vous voulez, va synchroniser tous les influx nerveux qui sont émis dans toutes ces zones du cerveau, et cette synchronisation a des effets de plasticité cérébrale que l'on connaît bien maintenant, qui ont été étudiés depuis une vingtaine d'années par les neurosciences cognitives de la musique. Et ce sont ces effets de plasticité, c'est-à-dire d'amélioration des capacités du cerveau, dont le spectacle fait écho ce soir.
Mais du coup, on est obligé de faire le parallèle avec presque un orchestre de musique.
Oui, c'est un bon parallèle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise le terme de symphonie neuronale. Dans un orchestre, il y a des pupitres. Chaque pupitre fait une chose un petit peu particulière, mais est connecté à tous les autres pupitres. Et de la même façon, dans notre cerveau, on a un peu des pupitres de neurones qui ont des spécialisations, mais ces pupitres de neurones travaillent en synchronie avec les autres. Et l'intérêt de la musique, c'est que lorsque la musique se met à jouer, tous ces pupitres se synchronisent exactement comme quand un chef d'orchestre lance son orchestre. Et pour poursuivre la métaphore, si vous voulez, lorsqu'un orchestre a plein d'occasions de répéter, l'orchestre va améliorer ses capacités. Bien, c'est exactement la même chose avec votre cerveau. Plus vous donnez à votre cerveau la possibilité de synchroniser ce large réseau de neurones, et plus il va développer ses potentialités. La musique a cet effet-là de créer cette symphonie et donc d'optimiser les potentialités de votre cerveau.
À quel moment on s'est dit que la musique, c'était pas qu'un loisir entre guillemets, hein, et qu'on a commencé à faire des recherches comme ce que vous êtes en train de faire encore aujourd'hui? Là, vous avez parlé d'il y a une trentaine d'années. Est-ce que ça remonte à encore plus ancien que ça, ou c'est plutôt récent?
Alors, l'intuition que la musique est importante pour le fonctionnement de l'esprit, elle date depuis très très longtemps. On peut remonter à Pythagore qui avait déjà des intuitions là-dessus. Mais la preuve scientifique que la musique est une des composantes essentielles des compétences humaines, elle est beaucoup plus récente. C'est quand on a pu voir comment la musique s'inscrivait dans le cerveau et quel lien elle entretenait avec d'autres compétences, comme le langage notamment, qu'on s'est dit que c'était beaucoup plus qu'un loisir, et que c'était peut-être même un des socles fondamentaux de la constitution de notre système cognitif et émotionnel et communicationnel. Probablement, les premières formes de communication chez nos ancêtres lointains étaient de type musical et non pas de type linguistique. Et donc, si on regarde des bébés, si on regarde des jeunes enfants, on voit, on retrouve cette primauté de la musique sur le langage. Donc, on pense aujourd'hui que la musique jouerait notamment un rôle essentiel pour le développement des capacités de communication et du langage. D'où l'impérieuse nécessité de continuer à entretenir cette activité, faute de quoi on va enlever le socle sur lequel l'intelligence humaine repose en partie, bien sûr.
Quelle est la différence en tant que spectateur, en tant qu'écouter, écouter la musique et faire la musique? Est-ce qu'au niveau de notre cerveau, quelles sont les principales différences?
Alors, écouter est déjà très bien. On a pu montrer, notamment dans le milieu hospitalier avec des patients qui ont des AVC, que si on leur fait entendre 2 heures de musique par jour, il y a une meilleure récupération des capacités cognitives et neuronales que s'ils écoutent du langage, par exemple, ou s'ils font de la rééducation habituelle. Donc, l'écoute peut suffire pour créer cette plasticité. Mais évidemment, plus on engage le cerveau, plus on s'engage dans une activité et plus on va bénéficier des effets positifs de cette activité. Donc toute forme de participation active à la musique, même chanter sous sa douche, chanter en famille, taper des rythmes, danser, même danser comme tout le monde peut le faire, c'est déjà un engagement beaucoup plus grand que d'écouter de la musique. Alors évidemment, si vous écoutez passivement, l'engagement est moindre. Si vous écoutez activement en faisant attention au thème, etc., c'est mieux, mais plus vous vous engagez et plus vous bénéficierez de ces effets.
Quel intérêt est-ce que ça a pour nous d'avoir toutes ces informations? Ça nous donne des avantages dans notre vie de quotidienne, de notre vie de tous les jours, autant écouter que faire?
Oui, ça c'est la raison d'être d'ailleurs des actions que l'on mène et de ce spectacle, c'est de faire comprendre au grand public et si possible aux hommes politiques, en tout cas à ceux qui prennent des décisions, que ces découvertes sur l'importance de la musique ont des implications sociales très grandes. Ça a des implications sociales pour la santé, ça a des implications sociales pour l'éducation, c'est-à-dire qu'on montre qu'on peut aider par la musique à aider des enfants à reprendre comprendre le chemin des apprentissages, parce que la musique stimule des zones qui sont similaires à celles qui sont impliquées dans les acquisitions fondamentales de l'école. Ça a des implications pour la vie quotidienne, par exemple au travail. Aujourd'hui, tout le secteur professionnel s'intéresse beaucoup à l'utilisation de la musique pour augmenter le bien-être au travail. Et quand on dit le bien-être, c'est vraiment au sens fort du terme, c'est-à-dire diminuer l'anxiété, diminuer le stress et augmenter le plaisir de s'engager dans une activité professionnelle. Donc il y a des enjeux sociétaux très grands, et il y a un avantage énorme, c'est qu'en fait, faire de la musique, ça ne coûte pas très cher. C'est pas des systèmes très lourds à mettre en place. Tout le monde peut le faire facilement et tout le monde est apte potentiellement à faire de la musique. Alors à des niveaux de performance différentes, mais ça, on s'en fiche un peu. Et donc, il faut que la société comprenne l'intérêt qu'il y a dans ces activités musicales pour répondre aux grands défis. Les grands défis de la société, c'est le vieillissement, c'est l'éducation mal faite, qui laisse beaucoup d'enfants sur la touche, et c'est le bien-être dans la vie quotidienne qui réduit les pathologies et le coût en termes de santé de toutes ces pathologies. Donc il y a des vrais enjeux sociétaux.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du spectacle de ce soir ? J'imagine que c'est en se posant ces questions-là que vous avez imaginé une représentation tout public. Comment est née cette idée et quel était le but ?
Alors évidemment, en tant que scientifique, j'ai fait beaucoup de conférences et puis je me suis rendu compte que de parler de la musique sans qu'elle soit présente, c'était très bizarre parce que ça donnait une connaissance intellectuelle du phénomène, mais ça donnait pas la possibilité aux gens qui écoutaient la conférence de ressentir les effets dont on parle. La même chose pour vos auditeurs. Si je parle de plasticité cérébrale, évidemment, ça leur dit quelque chose intellectuellement, mais ça, ils le ressentent pas. Et donc le but de ce type de conférence qu'on a commencé il y a 10 ans, c'était de donner la place à la musique pour qu'elle parle à ma place, en quelque sorte. Et aussitôt que j'ai dit quelque chose, que le quatuor que nous avons formé joue l'effet dont on a parlé, de façon à ce que les gens se disent « Ah ouais, c'est vrai ». Et donc, petit à petit, de chemin faisant, on est venu vers des formes de spectacle intégrés où le public ressent les effets et a les outils formels, conceptuels pour comprendre qu'est-ce que signifient ces effets, où ça s'enracine dans le cerveau, etc. Donc, le spectacle de ce soir, c'est vraiment une odyssée musicale dans le cerveau où on comprend toutes les zones du cerveau qui sont actives. On comprend ce concept de symphonie neurale, mais en même temps, on le ressent. C'est-à-dire que plus on avance dans le spectacle et plus le spectateur est pris par cette énergie que donne la musique, par ce feu intérieur qui vient de la symphonie neuronale, tout en voyant les zones du cerveau qui s'activent et en entendant pourquoi et comment elles s'activent, pour quelles raisons la musique a ses effets. Donc c'est une sorte de compréhension qui lie le sensible et l'intellectuel que nous proposons dans ce spectacle.
Ça fait 10 ans que vous êtes en tournée, entre guillemets, que vous proposez ce spectacle.
Alors, ce spectacle, non, il est tout récent, mais on a une conférence-concert qu'on a donnée depuis 10 ans avec le Quatuor. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec ce Quatuor. On a fait une pièce de théâtre aussi. Et là, maintenant, on est allé vers cette forme cabaret qui est un peu plus musicale, qui est très ludique, où on traverse des styles musicaux différents et où le spectateur ressent des émotions différentes. Donc, on essaye, l'idée, c'était de le mettre un petit peu comme dans une machine à laver, de faire une sorte de brainstorming de son cerveau et qu'il ressorte la tête à l'envers tout en ayant compris pourquoi la musique a cet effet-là.
Il y a une scénographie assez originale aussi. Sur scène, vous n'êtes pas tout seul, il y a une grosse structure qui vous accompagne. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, cette grosse structure, c'est notre cerveau. En fait, c'est un cerveau qui fait 12 mètres cubes. Alors évidemment, ce n'est pas un cerveau médical, c'est un cerveau d'artifice qu'on construit sur scène, qui est équipé d'un réseau de lumière LED qui sont activés par des algorithmes scientifiques qui miment comment notre cerveau réagit en temps réel aux musiques que nous jouons en live sur la scène. Et donc, on a une reconstruction, si vous voulez, de ce que pourrait être une imagerie cérébrale en temps réel des effets de la musique sur votre cerveau. Alors, c'est une reconstruction construction poétique, on va dire. Elle n'est pas médicale, bien évidemment, mais elle est juste sur le plan de son fonctionnement. Donc, au sortir du spectacle, toute personne, même des enfants de 7 ou 8 ans, auront déjà une compréhension de la façon dont le cerveau fonctionne, et surtout de cette notion de synchronisation, le fait que des neurones qui sont à des endroits différents se mettent à décharger des influx nerveux en même temps, et que cette synchronisation est un effet essentiel pour le bon fonctionnement de notre cerveau.
Donc on va ressentir et voir aussi en même temps.
Alors oui, en général, on ressent et on voit, et la plupart du temps, tout le monde finit debout dans le spectacle parce que ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on a une chanteuse qu'on a choisie, pop rock, justement pour ça, parce qu'elle met bien le feu aussi aux spectateurs, parce qu'elle a beaucoup d'énergie. Et c'est cet effet-là qu'on veut conserver. La musique donne beaucoup, beaucoup d'énergie, et parfois, on a besoin d'avoir d'énergie. Ici, c'est non-invasif, ça fait de mal à personne. On peut consommer sans modération la musique. C'est ce que le mot de la fin de notre spectacle, c'est ça. Consommer la musique sans modération, ça vous aidera beaucoup dans le développement de votre cerveau et dans l'accompagnement de votre vie.
Terminé, du coup, quel est l'avenir un peu de vos recherches ou du travail que vous effectuez, vers quoi vous souhaitez aller, vous orienter?
Alors, en tant que chercheur, on continue à comprendre, bien évidemment, non seulement pourquoi la musique a ces effets-là. On a des grands enjeux, notamment en travaillant actuellement sur les grands prématurés. Les grands prématurés réagissent de façon très sensible à la musique. Ça nous intrigue. Pourquoi? Il n'y a pas de raison culturelle. On n'est pas dans le loisir, on est vraiment dans le biologique. Donc, on aimerait comprendre vraiment quelle est la fonction de la musique pour la constitution de notre cerveau. Et sur le plan, disons, de la médiation scientifique que je dois faire en tant que scientifique, évidemment, c'est de faire comprendre au plus large public et le plus largement possible pourquoi les sociétés humaines doivent prêter énormément d'attention à ces activités musicales, les favoriser, les encourager, les systématiser, et peut-être briser cette idée fausse que seuls les musiciens qui ont fait des études au conservatoire peuvent faire de la musique. En fait, tout à chacun a des potentialités pour la musique, tout comme on a des potentialités pour parler, mais c'est pareil. Donc il faut développer ses potentialités, et ça, c'est vraiment un message important. Si vous avez une envie de faire de la musique, faites-le. Ça aura des effets positifs sur votre fonctionnement cognitif, cérébral, pour toute la vie.
Si on veut retrouver votre conférence ou avoir des informations, où est-ce qu'on peut chercher?
Alors, en général, en tapant mon nom, Emmanuel Bigan, musique cerveau, sur Internet, on trouve des tas de choses, des conférences, des interventions, même des spectacles qui ont été repris. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Le concept de symphonie neuronale, c'est le livre qu'on a écrit avec Barbara Tillman. Arte en a fait un documentaire qui s'appelle « Les super pouvoirs de la musique », qui dure 50 minutes, qui est facile à regarder. C'est déjà une bonne introduction au domaine.
Ben merci beaucoup Emmanuel. Donc malheureusement, quand vous nous écouterez à la radio, on aura déjà profité de votre spectacle qui s'appelle donc Les super pouvoirs de la musique, ou l'Odyssée musicale du cerveau, qui a lieu donc ce mardi 27 août au Sonnambule à Gignac. Ben on peut vous souhaiter une bonne représentation.
Merci, oui, puis on serait prêt à revenir dans la région si on a besoin de nous.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Au revoir.
Schneider, vous êtes musicien et vous intervenez pendant tout le festival Air de Famille à Gignac et aux alentours. Vous intervenez autant sur des rencontres musicales avec des professionnels ou non professionnels que sur des ateliers avec divers types de publics. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours de musicien ?
On ne peut pas dire que je sois vraiment un grand musicien. J'ai laissé la technique de côté pour pouvoir me servir des instruments pour fabriquer en fait, des chansons. Avant, je fabriquais la musique, j'étais compositeur et arrangeur. Donc j'ai travaillé pas mal pour des documentaires, pour de la pub, pour des pièces de théâtre, pour de la danse. Donc j'étais compositeur et arrangeur. Et puis sur le tard, donc assez vers 40 ans, j'ai des éditeurs qui m'ont commandé des chansons et qui m'ont incité à écrire, donc à devenir auteur et à fabriquer des chansons. Et puis là, j'ai été complètement subjugué par l'art de faire des chansons, ça m'a pris. Et puis l'impression, tu sais, d'être chez toi, d'ouvrir une porte et tu dis tiens, c'est chez moi, je suis dans ma chambre, génial. Donc j'ai fait que ça, en fait j'ai arrêté tout le reste. Et c'est la musique qui m'a emmené là où j'ai commencé à écrire des textes et des chansons. J'ai adoré faire ça et l'idée c'est de m'adresser aux enfants. S'il y a une petite dimension tout petit peu utile par rapport aux enfants, c'est de leur fabriquer des chansons où tu dis des choses. Et ça m'a amené aussi à faire de la création. Donc il y a des instits et des profs qui m'ont demandé de faire des ateliers. Et je fais ça depuis 20 ans aussi, des ateliers dans les écoles. Je leur fais faire leurs chansons à eux. Et quelquefois, ça m'est arrivé de le faire pour des EHPAD. Mais très rarement, là pour le coup, je vais faire des EHPAD. On va partir des EHPAD pour réunir les familles et essayer de fabriquer quelque chose qui a à voir avec les familles, peut-être être une mémoire de certaines familles, je ne sais pas, on ne sait pas du tout, et c'est ça que j'adore, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, l'idée c'est de faire des créations, des ateliers de création de chansons dans les EHPAD de l'après-midi. Voilà.
Laissez-nous le bleu de l'air, le bleu de l'eau, l'or bleu de l'eau de la mer, des ruisseaux. Je ne veux pas que pâlissent mes couleurs, qu'on les salisse. Rien de plus barbant qu'un univers en noir et blanc. Laissez-nous le bleu de l'air, le bleu du vent, l'or bleu de l'eau des rivières, des océans. Je ne veux pas qu'on suffoque, que le gris noie notre époque. Rien de plus barbant qu'un univers en noir et blanc.
Juste avant, avec Emmanuel Vigan, on parlait des effets de la musique sur notre cerveau. Pour vous, la musique, comment elle agit dans votre vie ?
Alors, je peux te parler de l'effet que ça me procurait quand j'étais enfant. J'ai commencé par écouter la musique, des musiques classiques, parce que là où j'étais, c'était classique. C'est une lame... alors, ça s'adresse sûrement à mon cerveau, mais moi, je le sens... dans mon ventre, au niveau de l'émotion, c'est complètement dingue. Il a fallu que j'arrête même, parce que ça me rend totalement triste, aquaboniste. C'est un effet dévastateur, en fait, cette musique-là. La musique romantique, la musique classique. Après, le jazz m'a donné envie de danser. Moi, c'est des réponses cucul à praline, hein, mais c'est comme ça. Quand j'ai découvert le jazz et la bossa, ça me rendait mais dingue de bonheur. Et maintenant, j'écoute tout. Hein. Évidemment, tout est bon. Hein. Mais je suis plus baroque. Ça m'impacte moins. J'écoute de moins en moins tout ce qui est romantique parce que je deviens cinglé. Ah oui, des émotions, c'est trop. Ouais, trop. Donc, j'aime beaucoup le baroque. Ça engage rien du tout, le baroque. C'est hyper maîtré. C'est génial. Et puis, toutes les autres musiques, voilà. S'il y a une petite chose que j'adore, mais ça, c'est de la maîtrise. C'est justement par manque d'estime de moi. Je me suis aperçu qu'en faisant de la musique, j'étais un peu le chef du temps. C'est-à-dire que tu décides que ça va aller vite, que tu décides que ça va aller doucement. Tu décides de prendre un silence le temps que tu veux. En fait, t'es maître du temps. Donc, je pense que ça a été aussi, ça m'a vachement plu d'être le chef de quelque chose, parce que tu as l'impression d'être le chef de rien tout le temps, en déficit d'estime de soi, quand t'es gamin, tu vois, il y a beaucoup de gamins qui sont comme ça aussi, hein. Et donc là, j'étais content parce que tout d'un coup, j'étais hyper fort parce que hop, ça s'arrête, hop, ça démarre, hop, et puis là, j'ai dit que ça, j'adorais.
Bon. Et pour l'avenir, alors, qu'est-ce qui vous attend ? Est-ce que vous avez des projets en cours ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Là, on vient de finir la création d'un spectacle pour les plus petits, où on joue à deux. Ça s'appelle « Monstre à tue-tête ». C'est pour les plus petits et pour les grands aussi. Je joue avec Cyril, qui est Cyril Dompnier, qui est le percussionniste. Peut-être qu'on le fera ici, à un moment ou à un autre. Et « Monstre à tue-tête », on est chanteur de monstres. On a été à la découverte de tous les monstres de la Terre. Enfin, pas tous, parce que le spectacle serait trop long. Mais... Et donc, c'est une vision des monstres un peu particulière, un peu différente, un peu sympa. Ça s'appelle « Monstre à tue-tête », c'est sympa. Et là, je suis en train d'écrire des chansons pour le nouveau, pour les plus grands. Je prends toujours des thèmes qui sont ou graves ou importants ou que je considère comme des problèmes ou ça peut être de la joie hein, aussi. Et puis j'essaye de le transformer. Comment je dis ça aux enfants? Par exemple, Platon, c'est quelqu'un dont j'avais envie de parler aux enfants parce que tout simplement, quand tu vois tout le, c'est le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne qu'on a tous étudié en philo, voilà, l'allégorie de la caverne. Et on a réussi à enlever nos chaînes, on a réussi à grimper à l'air libre, au soleil. Et puis on se remet tous dans des cavernes portatives, tu vois, le portable. Et j'avais envie de faire une chanson sur Platon.
Merci beaucoup à Emmanuel Bigan et Alain Schneider. On se quitte en musique, bien évidemment, avec le titre « T'es rien sur la terre, t'es rien ». Une chanson d'Alain Schneider. Et on se dit à très vite sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
C'est un grand jour aujourd'hui pour Petit Aigle Blanc. Son père lui apprend à écouter le chant du vent. Au sommet de la montagne, assis côte à côte, les yeux fermés, ils attendent dans les herbes hautes. Hey, 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 hey. Alors Aigle Blanc entendit le vent, doucement le vent lui dit: t'es rien sur la terre, t'es rien, rien qu'un locataire, et je te le dis. Prends soin de ma planète. Rien ne t'appartient, t'es rien, ici sur la terre. Et je te le dis tout net, prends soin de ma planète. C'est un grand jour aujourd'hui pour Petit Cheval Gris. Son père lui apprend à écouter chanter la pluie. Tout au bord de la rivière, assis côte à côte, les yeux fermés, ils attendent dans les herbes hautes. Hey, 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 hey. Alors Cheval Gris entendit la pluie, doucement la pluie lui dit: et je te le dis tout net, prends soin de ma planète. Rien ne t'appartient, t'es rien, ici sur la terre.